Le débat africain. Alain Foucault.
Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle, il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté.
Monsieur le représentant du président de la communauté, Excellences, mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement.
Ce dimanche 15 août 1960, à minuit, dans les jardins de la résidence du haut-commissaire à Brazzaville, après la traditionnelle envolée lyrique et théâtrale d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles de France et envoyé spécial du général de Gaulle, le Congo accède à son tour à l'indépendance. Moment lourd de symboles puisque Brazzaville, la capitale de la France libre et combattante, d'où est partie la première armée de l'homme du 18 juin 40, prend à son tour son destin en main. Elle est désormais la capitale de la République du Congo. Bien que pour des raisons économiques, les cérémonies officielles soient reportées au 28 novembre 1960, c'est partout la fête dans les quartiers noirs de la capitale. De Potopoto à Bakongo, en passant par Mongali et Mpila. Une fête qui masque mal la tension politique qui règne déjà. L'abbé Fulbert Youlou, bien que pas très aimé du général de Gaulle, notamment de son épouse qui n'apprécie pas vraiment ce prêtre qui aime tant les plaisirs terrestres, a été préféré à Jacques Opango. 60 années se sont écoulées depuis cette journée mémorable. Quel bilan ! Qu'ont fait les Congolais de leur indépendance ? Que retenir de ces 6 décennies de souveraineté internationale ? Bonjour à tous et bienvenue à Brazzaville où nous sommes installés en ce jour anniversaire avec plusieurs invités, plusieurs personnalités congolaises dont la parole compte ici. D'abord Madame Emilienne Raoul, ancienne ministre de l'Action humanitaire et des Affaires sociales et de la Solidarité, présidente du Conseil économique et social et environnemental. Bonjour Madame Raoul.
Bonjour, ça va ?
Notre second invité est également un ancien ministre, Alain Akwala Atipo, qui a occupé plusieurs portefeuilles importants pendant plusieurs années, dont celui de la communication, mais aussi des zones économiques spéciales. Bonjour Alain Akwala.
Bonjour cher Alain.
Notre dernier invité, et pas des moindres, est Sonny Benga, ex-directeur général de DRTV, mais Sonny Benga est d'abord et surtout un essayiste, un auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour Sonny Benga.
Bonjour cher Alain.
Alors j'ai envie de commencer en disant, qui était là ce 15 août ici sur ce plateau ? On dirait qu'on a que des jeunes ici.
J'étais à Brazzaville bien sûr, mais j'étais une jeune adolescente. Mm-hmm. Donc pour moi c'était un peu lointain parce que je vivais dans un internat. Donc, je ne vivais pas vraiment...
Vous n'avez pas vécu l'effervescence qu'il y a eu ici, à Brazzaville.
Ce n'est qu'après que le professeur de français, une religieuse, nous donne comme sujet « Que représente pour vous l'indépendance ?» Mmh. Alors, certaines ont répondu « C'est la fête, on va manger, on va danser ». Mais celles-là ont eu des mauvaises notes.
Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle attendait comme réponse ?
Mais elle attendait le changement qui devait arriver. Et même ces religieuses nous ont préparé pour vraiment participer. Intégrer l'idée de l'indépendance.
Elles nous ont préparé. Et est-ce qu'il y en avait qui avaient retenu ce que c'était ? Parce qu'en réalité, lorsqu'on n'a pas combattu pour cette indépendance, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas à quoi ça correspond.
Non, on ne sait pas, mais quand même, les sœurs disaient nous allons former des jeunes filles qui seront des femmes plus tard et qui seront à côté de ces hommes qui sont déjà formés, mais vraiment des personnes qui pourront conduire le pays plus tard. Mmh. Et elles nous ont formés dans ce sens et les premières femmes ministres viennent de cette école.
D'accord, ça veut dire qu'elles avaient été préparées. Ouais. Alors, on entend dans la plupart des capitales où nous avons été, les jeunes dire, au fait, c'était pas une indépendance, c'était juste symbolique. Que répondez-vous à ces jeunes-là ? Vous, Alain Akwala, aujourd'hui ?
Moi, je dirais, pour le cas du Congo, on peut a priori considérer que c'était symbolique, mais si vous repartez dans notre ancestralité, on saura quand même que pour ce qui concerne le Congo, qu'il y a eu une résistance à la colonisation.
Tout à fait.
Depuis Kimpavita, Macho André, Simo Kimbangu, qui était dans une espèce de théologie de la libération. Donc il y a eu quand même une volonté de vouloir se libérer de la présence coloniale, qu'on va ensuite retrouver dans l'option, on va dire, philosophique, marxiste des premiers dirigeants.
Qui viendra un peu plus tard.
Voilà. Donc il n'était pas besoin que nous ayons une guerre comme en Algérie pour que le sentiment de se libérer de la colonisation, pour considérer que le 15 août, c'était symbolique. Ce n'était pas symbolique, c'était l'aboutissement de quelque chose quand même.
Mais certains disent, si c'était vraiment un désir d'indépendance, et c'est la question qui revient le plus souvent, on aurait donné à ceux qui s'étaient battus, pas à ceux qui ne se sont pas battus, ceux qu'on a quelquefois imposé dans certains pays à des dirigeants de prendre cette indépendance. Ici, on n'a peut-être pas imposé, mais les gens se disent, au fait, si on avait voulu l'indépendance, on aurait donné à celui qui s'est battu pour ça.
C'est une génération. C'est une génération, si vous remontez notamment au père fondateur de la République, l'abbé Fulbert Youlou, Jacques Opango, c'était quand même deux personnalités qui avaient une espèce de courant idéologique. L'UDDI de Fulbert Youlou était affilié au Rassemblement démocratique africain de Fouet-Boigny,
le RDA,
et Opango était affilié, soit du parti MSA, était affilié à la SFIO. Donc nous avions déjà dans le pays une espèce de démarcation, on va dire,
idéologique.
Et ils ont été effectivement les premiers à assumer les responsabilités dans notre pays, même si après, c'est vrai, à la création de la République le 28 novembre 58 et par la suite, bon, on va vivre notre premier conflit politique en 59, après, les stigmates nous ont poursuivis jusqu'à
ce jour. Voilà. On va en parler. Alors, Sonny Benga, quelqu'un qui vous dit « c'est une indépendance factice, que rien n'a véritablement changé ce 15 août-là, après ce 15 août 1960 », vous lui répondez quoi ?
En tout cas, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et puis, avant tout propos, je voudrais quand même rendre hommage au père fondateur. Ah, le ministre Anna Kouala a parlé de l'abbé Fulbert Youlou, il faut citer Jacques Opango, tous ceux qui se sont succédés à la tête de notre pays, à partir de Massamba Déba, Marien Ngouabi.
Il y a eu 7 présidents depuis.
Voilà. Donc, je voulais leur rendre hommage et dire que finalement, c'est après coup que les gens disent que c'était une indépendance factice. Mais ceux de nos ancêtres, de nos anciens, diront que ça n'a pas été facile pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Vous voyez, lorsqu'on a parlé de Matsoua, son combat, notamment qui n'a pas été très, très bien aussi défini à notre jeunesse, démontre quand même qu'il y a eu des mouvements qui se sont levés pour chercher à ce que les Congolais accèdent à l'indépendance. Voilà. Donc ce n'est pas une indépendance factice. On aurait certainement aimé qu'on l'arrachât, comme on dit, de force. Mais la façon dont ça s'était fait pour que nous puissions accéder à l'indépendance préfigure la façon dont nous nous comportons aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Non, c'est-à-dire que, vous voyez, le sentiment d'utiliser toujours le consensus pour arriver à d'autres fins, plutôt que d'utiliser la violence pour régler le contentieux.
Oui, mais lorsque vous dites ça, on vous dit qu'il y a quand même eu des guerres dans ce pays. Ça n'a pas toujours été le consensus, Madame Raoul. Lorsqu'il dit ça, on se dit, on parle quand même du Congo, où il y a eu plusieurs guerres depuis cette indépendance-là.
Est-ce que je peux repréciser, mon cher Alain ?
Oui,
quand je parle de consensus, je ne veux pas dire que vis-à-vis de nos compatriotes, c'est que nous avons été colonisés. C'est-à-dire que c'est cet affrontement avec le colon.
Oui, mais justement, c'est ce que les jeunes reprochent. Ouais. C'est qu'ils se disent, si on s'était battu, peut-être que ces richesses dont on parle tant seraient revenues directement au Congo. Peut-être qu'on aurait mieux élaboré le cadre.
Je comprends. Madame Raoul certainement pourra nous apporter quelques éclairages.
Voilà.
Parce que vous avez justement cette génération qui a vu les pères fondateurs à l'œuvre et qui ensuite arrive aux affaires. Fin constat. C'est que nous sommes certes indépendants, mais nous n'avons pas, entre guillemets, la maîtrise du destin économique de notre pays. Voilà pourquoi nous allons connaître des phases de nationalisation, mais qui, sur le principe, on pouvait le comprendre, mais de manière technique et managériale, ça a été une catastrophe. Voilà pourquoi, à l'époque, la génération Denis Sassou Nguesso, Marien Ngouabi, Alfred Raoul, etc., se battent pour que nous ayons une raffinerie à Pointe-Noire. Donc, le sentiment d'être indépendant, mais de manière un peu circonscrite, vient du fait qu'à ce moment-là, sur le plan économique, nous n'avions pas le destin de notre économie en main. Voilà.
On va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer d'abord par un bilan politique, ensuite un bilan économique, un bilan social et un bilan culturel. Je sais que généralement, le volet politique prend beaucoup de temps. On va essayer d'être assez précis. 60 ans après, où en sommes-nous sur le plan politique? On a envie de poser cette question ici à Brazza plus qu'ailleurs, parce qu'on a connu quand même pas mal de régimes dans ce pays. On a connu la période Youlou, et puis il y a eu la période des Trois Glorieuses, qui a mené Massamba Déba au pouvoir. Massamba Déba a été renversé par les militaires qui ont installé le marxisme, le léninisme ici avec Marian Gwabi. Et après Marian Gwabi, il y aura Yombi Opango, il y aura Denis Sassou Nguesso. Lissouba, ensuite, en 1990. Et on est revenu à Sassou 2 ou Sassou 3, je ne sais pas trop à combien on en est aujourd'hui. Bilan politique.
Alors, le bilan politique, on peut le voir sous différentes facettes. Si vous prenez... Je suis la seule femme sur le plateau, il faut dire. Hein.
J'aurais voulu plus de femmes, mais rassurez-vous, et je pense que Delphine Michaud, qui doit nous regarder, qui est ma collaboratrice, et moi avons cherché pendant plusieurs semaines, mais on avait le sentiment que les femmes ne voulaient pas venir sur ce plateau.
Donc, je suis...
C'est pas pour nous défausser, là.
Hein. Oui, je suis la seule, donc je vais essayer de parler des femmes.
Voilà.
Les femmes, à chaque épisode de l'évolution de politique de notre pays, ont joué un certain rôle. Alors, à l'indépendance, je viens de dire, bon, nous étions adolescentes, mais quand arrive la révolution marxiste, mais elle s'intègre totalement. Je me souviens, moi, personnellement, bon, je faisais, on avait des entraînements militaires, de la défense civile, etc., parce qu'il fallait défendre la révolution. Pour nous, c'était ça.
Sous Marian Gwabi.
Sous Marian, oui. D'abord, sous Massamba Déba. Et ensuite, sous Marian Gwabi. Donc, la place de la femme a été très forte pendant cette période, parce que nous sommes entrés dans le parti unique. Le parti unique qui faisait qu'il y avait un quota pour les femmes, un quota pour les jeunes, un quota pour le reste. Et je pense que les femmes à cette époque étaient vraiment celles qui apportaient l'équilibre dans la pensée des choses. Parce que quand il y a eu des moments difficiles, les femmes se sont vraiment investies.
Oui, mais j'ai envie de dire, les femmes se sont investies. Est-ce que les hommes n'ont pas failli? Parce que ça a été assez instable, très instable du point de vue politique.
Très instable. Nous avons connu des guerres. Certains sont allés en prison. Il y a eu quelques tueries, etc. Mais c'était l'instabilité due au fait que nous nagions entre deux eaux. On pourrait dire ainsi. Il y avait le colonialisme qui était encore là. Il y avait le marxisme qui
dans la période des guerres froides où il y avait deux blocs.
Voilà, nous avions deux blocs et nous étions au milieu. Certains appuyaient les uns et d'autres les... Vous voyez, donc nous étions entre deux eaux. Et c'était tout à fait normal pour beaucoup de pays qu'à cette époque, il y ait toutes ces guerres fratricides, d'ailleurs, qui se sont poursuivies jusque dans les années 90.
98.
Jusqu'à cette période. Peut-être aussi pour d'autres raisons. Vraiment, on peut dire qu'il y avait une instabilité politique et qui a entraîné le désastre aussi humain dans nos familles.
Allez, voilà. Oui, non, je pense que d'abord, la première période qui nous emmène à 63, je crois qu'il y a deux tendances qui s'affrontent un peu. Le président, l'abbé Fubler-Hulé, était totalement libéral. Anticommuniste. Si je me souviens, le premier voyage qu'il fait, c'est aux États-Unis, je crois, 2-3 mois après l'indépendance du pays. Et puis de l'autre côté, vous aviez une jeunesse très bouillante, parce que nombreux étaient inspirés quand même par les communards de Paris et la Commune de Paris. Donc c'était des jeunes lettrés. Il faut savoir que nous étions la capitale de la France libre. Nous étions, entre guillemets, l'usine à fonctionnaires, si vous voulez, de la Afrique équatoriale française. Donc une espèce d'éveil. Une curiosité politique assez forte. Donc, vous aviez à la fois ce qui était pour, on va dire, le libéralisme, d'autres pour le socialisme scientifique, socialisme bantou, etc. Et arrive 63.
Et Massamba Déba,
voilà.
Bantou.
63, nous rentrons dans une autre, dimension qui est celle de la révolution. Et là, nous sommes dans une centralité géostratégique, géopolitique, avec en face la RDC, qu'on considérait comme étant pro-occidentale, parce que là-bas, il y avait le maréchal Mobutu, avec la base de Kitona, qui est une base de l'OTAN. Nous, on était considérés comme étant pro-soviétiques. Mais cette période a permis effectivement au pays d'assurer une espèce de leadership au niveau africain. Un pays qui est indépendant en 60 organise les premiers Jeux africains en 65. Nous sommes en réalité l'Athènes du sport africain. Et en même temps, nous embrassons toutes les luttes de libération africaine. Et nous n'avions que 5 ans d'indépendance, si j'ose dire. Donc ça montre que c'était une jeunesse qui était très bouillonnante. Ensuite, dans cette période du parti unique, il y a le centralisme démocratique. Et à partir de là, les tendances et les courants se battent. Ceux qui étaient pour, la ligne, la gauche internationale, se retrouvent face à ceux qui étaient partis en exil, qui étaient pro-américains, entre guillemets, notamment Kolela, Kinganga, etc. Donc, toute la période de Marien Ngouabi, je peux dire, et Mme Wall peut, je crois, témoigner, que ces aînés-là ne savaient pas, en passant la nuit, s'ils allaient se réveiller vivant demain. Donc, on a une grosse période, entre guillemets, d'instabilité. Arrive la démocratie. La démocratie,
1990,
voilà, arrive la démocratie.
La conférence nationale.
La conférence nationale, est consécutive au discours de la Baule, hein, où François Mitterrand dit « Vous faites la démocratie et puis on vous aide ». Bon, il n'y a que le roi Hassan II qui avait répliqué, hein, de manière assez cinglante à cette entre guillemets, injonction de François Mitterrand.
Mais elle apporte... Moussa Traoré, qui l'a payé très cher également.
Exactement. Alors, elle apporte, c'est vrai, elle met, disons, un terme au parti unique, gestion monolithique du pays, gestion monolithique de l'économie, ouverture démocratique. Mais malheureusement, des vieux démons réapparaissent à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les démons qui sont hérités de 59, où il y a eu la fameuse guerre civile qu'on appelait, à mon sens, à tort, guerre Nord-Sud, eh bien, on retrouve justement, au sorti de la conférence, une configuration de parti qui devient, entre guillemets, ethnico-politique, où malheureusement, on constate que ça ne choque personne, que le MCD de Bernard Colella dise que je suis un parti du poule, l'UPADS...
La régionalisation des
justement, donc, l'UPADS du président Pascal Issouba, c'est le Neri Labonzala Lekoumou, ça ne choque personne, et paradoxalement, bon, le PCT que nous critiquons tous, devient... Bon, celui qui avait plus ou moins une assise politique nationale, mais toute son approche idéologique était totalement...
On va aller vite sur l'aspect politique. Ouais. On va dire, il y a eu plusieurs guerres dans ce pays.
Alors, pour le bilan, si vous permettez,
et rapidement.
Je vais dire que il faut saluer quand même la culture du consensus de tout ce qui a été pris dans les conflits depuis, je dirais, 93, 97 et 98. L'effort qu'on a toujours voulu de nous parler. Parce que sinon, on se serait retrouvé comme certains pays africains.
Oui, mais lorsque vous dites ça, on a envie de vous dire, vous parlez. On a eu une guerre qui a été une guerre fratricide dans ce pays-là.
Exact.
Sonny, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment ça le consensus? Quand on s'entend, on ne fait pas la guerre. Les autres pays ne sont pas forcément passés par la guerre. Est-ce que aujourd'hui cette question est résolue? Est-ce qu'on a résolu la question du régionalisme dont vous parliez?
Non.
Donc on ne peut pas dire que ce soit la culture du consensus, Sonny Benga.
Mon cher Alain, je crois que la République a commencé avec des béquilles. Parce que lorsque nous mettons aujourd'hui à parler du bilan, à dresser le bilan des 60 ans du point de vue politique, il faut dire déjà qu'en 58, novembre 58, il y a eu déjà cet affrontement à l'Assemblée territoriale à Pointe-Noire.
C'est le péché originel de la naissance de notre pays.
Qui a abouti à la guerre de 1959, enfin aux affrontements de 1959, opposant les partisans du président Philbert Youlou à ceux de Jacob Pango. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de temporalité pour savoir à peu près cette évolution. Donc, 59, il y a affrontement, opposition, mais on résout le problème par le consensus. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a toujours le consensus, puisque...
Quand, il est fragile, ce consensus.
Alain, je termine. J'illustre mon propos par un exemple simple. Lorsque on débarque le président Youlou, le président Pango est à l'étranger. Il décide de rentrer au Congo. Et il demande à ce qu'il soit arrêté avec le président Youlou. Vous voyez, alors qu'ils se sont opposés en 1959. Donc ça, c'est un élément pour dire qu'on règle le problème consensuellement. Lorsqu'on quitte 1959, 90, 91, la conférence nationale 91, bien après, on a 93, il y a la deuxième, entre guillemets, guerre civile qui oppose les partisans du président Lissouba à ceux de Bernard Kolela.
Non, à Bernard Kolela.
Mais comment on fait pour régler ce problème? Il y a un rapprochement qui fait que...
Moi, j'ai envie de dire...
Ce sont des points de l'histoire qu'il faut que l'on sache pour
dresser le moment de guerre à tous les coups pour trouver le consensus.
Ça veut dire que... Excusez-moi, monsieur le ministre. Il faut quand même qu'on se dise les choses. Il y a cette espèce de velléité, peut-être, de régler nos problèmes d'abord par la violence et puis après... s'asseoir autour d'une table pour trouver le consensus.
Après que le sang ait coulé, est-ce qu'on ne peut pas trouver ce consensus avant, Madame Raoul? Quand vous entendez ça, moi qui regarde un peu l'histoire du Congo, je me dis, pourquoi ils s'entendent seulement après avoir fait la guerre? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entendre avant? Et est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à ce régionalisme après 60 ans qui est toujours à la base de ces divisions, de ces guerres, de ce sang qui coule?
Oui. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure concernant le rôle des femmes, même en ce temps-là. Eh bien, ces femmes ont essayé de mettre ensemble tous ceux qui se battaient. Lissouba, Kolela et les autres. Et puis, il y avait des petits partis tout autour. Qui aurait pu les rassembler tous sur un même espace? Il n'y avait que les femmes. Et là, ils ont décidé d'arrêter. Il y avait une trêve. Il y a eu une trêve et je demanderai même aux chaînes de télévision si elles peuvent nous restituer les images de cette époque, voyant Lissouba à côté de Kolela, à côté d'autres hommes politiques. Il y avait Tister Tshikaya, il y avait... On a essayé de les mettre ensemble, on leur a dit « n'avancez plus dans cette guerre, arrêtez-vous ». Et à cette époque, ils ont signé une trêve qui avait été signée grâce aux femmes. Mais les vieux démons revenant...
Ils reviennent toujours.
Justement, quand on fait un bilan, cher Alain, il y a un actif et un passif. Donc, je dirais à l'actif de cette génération, c'est d'avoir réussi à un moment donné à dire stop et on se parle même s'il y a eu des morts. Le pays aurait pu disparaître. On aurait pu se retrouver comme dans certains pays qui, depuis 30-40 ans, sont toujours dans la guerre. Maintenant, au passif de cette génération, et c'est là qu'il faut tirer les leçons, c'est qu'un certain nombre de ses prédécesseurs, je pense, n'avaient pas une réelle vision politique, n'avaient pas une réelle perspective collective à proposer au pays. Et alors, on préférait surfer sur les configurations, les appartenances ethniques, parce que
comme malheureusement dans la plupart des pays francophones, la zone centrale, de l'Afrique, l'Afrique centrale,
parce qu'on considère que celui qui est au pouvoir ou qui occupe une responsabilité, s'il est de telle ethnie, moi qui suis de la même ethnie, je me sens en sécurité, alors qu'au fond non. Celui qui est de telle ethnie, qui a le sentiment que telle personne qui n'est pas de son ethnie n'est pas au pouvoir ou en responsabilité, se sent exclu. Voilà pourquoi tout remonte à 59, si bien que même dans la constitution et la composition de nos gouvernements, on prend les personnes par origine ethnique. Et on ne prend pas les personnes par efficacité ou par culture de synergie gouvernementale.
Très présent en Afrique centrale. Comme je le disais, on pourrait passer tout le temps à la politique. On dit juste un dernier mot en politique et puis on va passer à l'économie.
Oui, mon cher Alain, parce que vous avez utilisé le mot de régionalisme, cette tare-là. On parle de tribalisme. Mais c'est l'instrumentalisation qui est le fait des hommes politiques qui nous conduisent à penser que le tribalisme existe. Parce que lorsque on parle de la guerre de 1959, certains présentent cette guerre-là comme une guerre nord-sud. On viendra aussi en 93, en 97, 98. Ce sont les hommes politiques qui, derrière eux, amarrent un certain nombre de jeunes, parfois désœuvrés, et qui pensent que s'ils les suivent, ils défendent leur tribu. Alors que le débat, parfois, peut-être est débat idéologique, de contradiction, fait qu'ils ne s'entendent pas pour le bout de gras.
Alors, on va parler économique.
Pourquoi on ne se parle pas avant et qu'on se parle après? On a tiré les leçons. Voilà pourquoi, dans la constitution actuelle, on a mis en place, d'une manière institutionnelle, le Conseil national du dialogue.
Alors, on va passer à l'économie maintenant, puisque...
Les questions ne valent que par les hommes qui les respectent.
Comment un pays comme celui-là, avec de telles richesses, peut-il être dans cette situation économique désastreuse? Comment expliquer ça avec du pétrole, avec des richesses minières, être au cœur du bassin du Congo, avec des terres arables? Qu'est-ce qui peut expliquer que 2/3 de la population soit dans une situation de sérieuse pauvreté?
Alors, vous avez annoncé tout à l'heure qu'on va parler de l'économie, ensuite du social. Moi, je ne le dissocie pas. Ça va ensemble.
Logique.
L'économie et le social. Pourquoi? Parce que quand on parle investissement, on pense qu'on investit seulement dans l'économie. On va investir dans l'industrie, on va investir dans les mines. Non, on investit d'abord dans l'homme. Et puis, comme en économie, il y a un retour sur l'investissement. C'est par rapport à la pauvreté. Est-ce qu'elle a diminué parce que nous aurons investi dans l'éducation, dans la santé, dans les emplois, etc. Donc, la question que vous posez, pourquoi un pays aussi riche, qui a de pétrole, qui a des forêts, qui a le bois, etc., des mines, reste toujours avec 46% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas pris ça en compte. On n'a pas pris en compte l'investissement humain, l'éducation. Il faut d'abord éduquer, soigner, etc. C'est pour cela que le ministère que j'ai eu à conduire pendant quelques années s'est investi dans la lutte contre la pauvreté. Nous nous sommes servis du DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et dans ce document, il n'y avait pas une réelle stratégie de lutte contre la pauvreté.
Mais qui doit l'élaborer? Parce que quand on vous invite, on se dit, bon, elle a été aux affaires, elle voyait ça, elle sait de quoi on parle. Qui n'a pas fait quoi?
Ben, c'est nous qui n'avons rien fait pendant un temps. Mais quand on l'a compris, on l'a fait.
Mais sauf que je ne vois pas la pauvreté vraiment reculer.
C'est récent, ces politiques sont récentes, je pourrais vous le dire. Ces politiques de lutte contre la pauvreté sont récentes. Mais récentes pourquoi? Parce que justement, nous pensions que l'économie, c'est d'abord importer, c'est vendre le pétrole, etc. Mais on ne pensait pas que les revenus de pétrole devaient venir pour investir dans les hôpitaux, dans les écoles et
oui,
dans
est-ce
les
qu'il y a emplois. Pas eu, est-ce que certains n'ont pas confondu leur porte-monnaie avec les revenus du pétrole, finalement? Parce qu'on a du mal à entendre cette habitude qui veut qu'on parle de la malédiction du pétrole,
ah oui, ça,
la
c'est,
malédiction
c'est...
de la matière première. Or, quand on voit les grandes nations, notamment celles du Golfe, on dirait que la malédiction ne frappe que nos pays africains. Comment l'expliquer?
La malédiction frappe nos pays parce que ailleurs, la France, on entend le président Macron parler d'un état profond qui empêche que les réformes se fassent. Mais je pense que dans nos pays, c'est l'absence d'une colonne vertébrale, c'est l'absence d'une rectitude au niveau de la préparation des prises de décision. Il faut avoir aussi une capacité à faire de la prospective économique. Et il faut surtout améliorer notre culture de la gouvernance économique et financière. Et vous avez raison de dire que il arrive que lorsqu'on est en responsabilité, la tentation est grande. Et c'est un phénomène mondial, la corruption. Donc on est enclin à vouloir peut-être ou sûrement utiliser les avantages de sa fonction et en abuser même, aller même au-delà pour, j'allais dire, des fantasmes personnels. Et donc ça, c'est un vrai problème. Mais c'est lié aussi, je crois, à la manière dont l'élite est formée et préparée à arriver en responsabilité. On a connu dans ce pays, notamment à l'époque où Mme Raoul parlait de la Révolution, où nous suivions à la radio, sous Marien Gwabi, eh bien, des gestionnaires de structures d'État passaient au procès pour détournement d'argent. Donc, il faut, je crois, arriver à faire en sorte que la culture de la responsabilité soit véritablement, au rendez-vous, à la fois au niveau sanction et encouragement.
Donc,
et effectivement,
il faut une meilleure gestion et en même temps une certaine rigueur.
Bien sûr.
Et aussi, oui. Le moyen de... Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'on a tout misé sur le pétrole, Sonny Benga, où on s'est dit, on a du pétrole, on ne diversifie pas.
Oui. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Si le thème des 60 ans de cette émission était le bilan économique, moi personnellement, je suis un peu mal placé, je suis entouré des anciens ministres.
Ah, mais il faut sortir.
Je dirais que c'est un bilan globalement négatif. globalement négatif, comme disaient les anciens communistes. Mais vous parlez du pétrole, il n'y a pas que le pétrole. Quand le Congo a commencé à avoir un budget financé par le pétrole à l'époque où Henri Lopez était Premier ministre, c'était peut-être 48 milliards. Mais nous avons un pays qui a au moins 60% de sa superficie occupée par la forêt équatoriale, avec des essences rares. Dites-moi, est-ce que ces essences-là sont transformées sur place pour créer et générer des ressources? Non. Peut-être maintenant, puisqu'on est dans l'ère de la diversification de notre économie.
Ça a commencé?
Mais je crois, les gouvernants vont vous dire, hein, parce qu'eux, ils savent que, en plus, vous avez été ministre des zones économiques spéciales, vous savez que dans ce cadre-là, la diversification économique, en misant sur les zones économiques spéciales, viendra peut-être donner un petit coup de fouet. Mais, le pétrole n'est pas cette matière-là si on n'a pas les gens, la ressource humaine qualifiée pour la gérer, l'exploiter et la transformer. On dit, on exploite le pétrole au large de Pointe-Noire, mais quels sont les cadres? Est-ce que nous avons des cadres formés pour les ressources? Est-ce qu'il y a une traçabilité? La question, c'est ça.
Ce que je peux dire.
Mm-hmm. Alors, quoi, là?
D'abord, on a eu sous Marien Gwabi le boom de 21 milliards. Hein, 21 milliards, à l'époque, c'était extraordinaire. Mm-hmm. Quelques facilités, notamment subvention, je crois, des médicaments dans les pharmacies à 50%. Donc il y a quand même une espèce d'impact social favorable. Bien. Ensuite, nous avons un autre boom sous le président Denis Sassou Nguesso, où là, on lance un certain nombre de projets d'infrastructure, etc. Et je me rappelle même, on avait voulu faire du département de la Bouenza, de par le fait qu'il y avait là-bas le barrage de Moukoukoulou, ensuite les mines, ensuite l'agriculture et l'élevage, en faire une espèce de zone pilote. Mais malheureusement, l'absence de culture prospective fait toujours qu'à un moment donné, on est surpris par la baisse brutale des cours du pétrole, et ensuite on rentre dans une phase de négociation avec le Fonds monétaire international, ainsi de suite. Bon, arrive effectivement, il part des zones économiques spéciales. Je regrette que près d'une décennie après, on n'ait pas pu démarrer ce processus, alors que le Gabon a commencé après nous. J'ai été visiter la zone économique spéciale de Nkok. Donc, ce qui revient à dire que les ressources qui rentrent du pétrole, comme dit Mme Raoul, doivent être investies dans ce qu'on peut considérer comme des secteurs vitaux, l'éducation, l'enseignement, etc. Ensuite, la diversification de l'économie de notre pays s'impose parce que nous sommes aujourd'hui dans une
économie. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fasse pas, Madame Raoul?
Je voudrais dire aussi que nous avons travaillé de manière cloisonnée. Je me souviens, j'ai passé 14 années au gouvernement. Je disais que moi, je m'occupe des pauvres. Mais qui sont ces pauvres? Mais c'est toute la population qui se trouve ici au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais ces pauvres sont pris en charge selon les secteurs. Et nous n'avions pas cette coordination qui faisait avancer les choses. Malheureusement, bon, chacun travaillait de son côté. Moi, j'ai travaillé de mon côté. J'ai dit que j'ai fait ce que je devais faire. Jusqu'à produire un programme de lutte contre la pauvreté. Et quand j'allais au ministère du Plan à l'époque, je me disais, mais quel est notre programme national? On me dit, mais regardez dans le DCRP. Mais dans le DCRP, il n'y avait rien. Et c'est là où j'ai tiré du DCRP ce que j'ai pu faire pour lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire, vous dites qu'il n'y a pas de résultat pour l'instant. C'est vrai, au bout de 5 ans, même 10 ans, on ne peut pas avoir
des
résultats. Il faut plus de temps. Et c'est plus de temps, il faut que les autres aussi participent. C'est-à-dire une coordination qui se trouve au-dessus des secteurs.
Mais avouez que ça déprime un peu d'entendre des gens qui sont au pouvoir, qui sont au gouvernement, se dire chacun travaille de son côté, on ne s'écoute pas. À quoi ça sert alors finalement? Est-ce que ce n'est pas là la question de leadership qui se pose
oui,
réellement?
Oui, excusez-moi, je me souviens lorsque M. Alain Akuala et moi étions au gouvernement, je lui parlais souvent de séminaires gouvernementaux. Et on a essayé de forcer cela. Le séminaire gouvernemental sert à quoi? Il sert à se retrouver, à regarder ce que nous allons faire ensemble, à pouvoir évaluer et à revenir sur ce qui n'a pas été suffisamment fait et puis avancer sur les programmes.
Ça ne se faisait pas.
Mais ça ne se faisait pas. Maintenant, je pense que ça se fait.
Donc, peut-être. C'est l'apprentissage de la gouvernance.
Après
60 ans. Il y a un certain nombre de personnes qui vous disent, et ce tour d'Afrique nous édifie un peu plus là-dessus, qui vous disent, des personnes d'un certain âge, nous, quand on était à l'école, on avait le vaccin, on nous donnait des vermifuges, on prenait en charge nos écoles.
Nous sommes passés
et ça,
par
c'était
là.
Le modèle du colon. D'un coup, on est indépendant. Et on a le sentiment que c'est moins bien. Est-ce qu'ils exagèrent quand ils disent
ça? Non, ils n'exagèrent pas. Ils n'exagèrent pas parce que lorsque nous étions jeunes, engagés, révolutionnaires, comme on disait, anti-impérialistes, etc. Mais on parlait en face de mon domicile familial, il y avait un monsieur qui s'appelle Papa Bouya et qui se marrait lorsqu'il nous entendait parler. Il nous parlait de quoi? Mais il y a un dispensaire à l'époque de la colonisation, le dispensaire de la grande école de Poto-Poto s'occupait de tout. Donc c'est vrai. Nous avons quelque part, si j'ose dire, pas réussi. On aurait pu mieux faire. Pour terminer sur ce
plan social, c'est ça qui est grave.
Bien sûr.
Parce que c'était pour les populations que l'on luttait pour l'indépendance, pour ceux qui ont lutté.
Exactement.
Alors là, on a le sentiment que ces populations
ont été abandonnées. Souyoulou, le PIB de notre pays en 60 était de 130 millions de dollars. Et en 2019, il est à 11 milliards de dollars. Donc ça veut dire que là-dedans... Oui, bien sûr, mais 130 millions de dollars... avec environ 1 million d'habitants. Aujourd'hui, 11 milliards avec 5 millions d'habitants, donc on peut quand même faire le ratio. Ça veut dire que quelque part, les disparités sociales qui demeurent doivent quand même nous interroger.
Alors on va aller vite parce que le temps tourne très très vite, malheureusement. On aimerait bien rester un peu plus longtemps. On regarde de façon prospective pour les 60 prochaines années. Je sais que la plupart d'entre nous ne seront pas là. Moi, j'espère en tout cas être là dans 60 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça? Parce que lorsque l'on regarde le bilan, on se dit on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Que mettre à l'actif? Et qu'est-ce qu'il faut changer dans l'immédiat,
À mon avis, dans l'immédiat, il faut développer la gouvernance de proximité. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout en grand, à partir de la capitale. Mais les choses se développent à partir du territoire. Le territoire, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr la préfecture, mais c'est aussi le village, c'est aussi le quartier. Et comment vit-on dans ce quartier? Comment vit-on dans ces villages? Quelles sont les potentialités que l'on peut mettre en exergue pour que les populations puissent en bénéficier? Donc moi, j'insiste sur le développement territorial. Et pour cela, il faut tout un accompagnement.
Il faut décentraliser.
Voilà, il faut décentraliser, il faut une gouvernance locale développée.
Allez, à quoi là?
Moi, je pense, pour aller dans le sens de ce que dit Mme Raoul, il faut effectivement réduire cette espèce de distanciation qui est entre ceux qui dirigent et le peuple. À une époque, on a connu, il y avait un slogan où on disait qu'on devait être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Bon, ça, c'était la belle époque, on va dire, révolutionnaire. Donc, il faut arriver à faire en sorte que ceux qui sont en responsabilité ne se considèrent pas comme des bonzes, savent qu'ils sont au service des populations. Et ensuite, pour les 60 prochaines années où on sera là tous les deux et on verra le pays changer, moi, je considère que, compte tenu de la situation économique actuelle, il faut arriver à faire en sorte que nous développions dans une vision prospective un projet qui soit fédérateur, un projet qui ressorte les énergies, donne foi à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui.
Ça se matérialise comment?
Et ça se matérialise par le fait que nous pouvons aujourd'hui, compte tenu de la position de notre pays, qui a un avantage concurrentiel immédiat par rapport aux autres, développer l'idée de construire un canal qui va relier donc Moussaka à Pointe-Noire. Nous allons ici pouvoir faire une véritable intégration nationale. Quelqu'un qui quitte Moussaka peut prendre le bateau par le fleuve, arrive à Brazzaville, prend le canal pour aller à Pointe-Noire. Et ça peut développer d'autres, j'allais dire, activités économiques. Je souhaite aussi, parce que nous sommes quand même à quelques mois des élections présidentielles, c'est bien que RFI vienne nous voir pour nous imposer...
C'est pas facile de venir.
D'accord, mais vienne nous permettre de faire cette espèce de regard introspectif par rapport à l'histoire de notre pays. Mais je souhaiterais que ce soit les Congolais eux-mêmes, les dirigeants, qui soient capables de se retrouver avec le recul historique nécessaire, de manière dépassionnée et civilisée, et dire que voulons-nous faire de notre pays. Et ça, c'est une interpellation que j'envoie au chef de l'État.
Ça ne se fait pas?
Il faut que ça se fasse.
Vous ne parlez pas ici, vous ne discutez pas de cela, Sonny Benga? Bon, sur DRTV que vous dirigez, il n'y a pas eu ce type de débat?
Si, je pense qu'on a organisé plusieurs débats à DRTV. Hein, mais bon, quand la frilosité des hommes politiques ou des intervenants liée au fait que peut-être que l'atmosphère ou l'ambiance est tellement lourde qu'ils s'auto-censurent. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être pour les 60 prochaines années, s'il plaît à Dieu que nous soyons là, il faut se départir des mots qui minent notre société, à savoir le tribalisme, la corruption, l'éloge de la médiocrité, et sublimer plutôt l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, donner l'égalité des chances à tous. Moi, je vais vous prendre un exemple personnel. Moi, je suis fils d'une femme qui vendait du poisson fumé au marché. À l'époque, on peut dire l'État-providence. Si cette femme-là n'avait pas, si c'était comme aujourd'hui, elle n'aurait pas envoyé son fils à l'étranger étudier. Mais c'est parce que l'État-providence et les pouvoirs publics d'antan distinguaient le mérite et considéraient que ceux qui sont bons méritent d'être hissés et les médiocres devaient se battre pour hisser au niveau des bons.
Mais là, vous me tendez une perche extraordinaire pour développer quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la plupart de nos pays, cette propension de tout le monde à toujours se tourner vers l'État et au point d'avoir oublié l'entrepreneuriat?
L'État
on
organise
beaucoup ça.
L'État organise, l'État doit organiser.
L'État régalien organise.
L'État organise.
Oui, mais est-ce qu'on n'a pas fait tel que le logiciel de tout le monde est de dire je fais des bonnes études, j'entre dans la fonction
publique? C'est un héritage français. C'est un héritage français.
Non,
mais les générations
départir.
Mais les générations actuelles, non, l'État donne l'égalité des chances et permet à chaque individu de réaliser son rêve.
Réaliser
moi, mon rêve,
rêve,
c'était chef d'entreprise.
Mais vous n'étiez pas la majorité à penser comme ça. Hein. La plupart des gens se disaient, je passe mes diplômes et j'entre dans la fonction publique.
Mais
c'est
oui, mais
surtout,
c'est exactement cela. Et aujourd'hui, vous voyez, quand vous passez dans une rue et que vous trouvez des ordures ménagères, ça et là, vous dites à la femme, mais maman, débarrasse ici, balaye. Ah non, l'État va faire.
Le civisme. Oui.
C'est ça.
Le civisme.
Oui, mais on attend tout finalement de l'État.
À l'époque, ce n'était pas comme ça.
À l'époque, ce n'était pas comme ça.
Il y avait ce qu'on appelait l'investissement humain.
Mais justement, l'investissement humain. Je reviens à ce que disait Monsieur le ministre tout à l'heure, concernant les vaccinations, concernant les soins, concernant l'école. Mais c'est justement ce que nous sommes en train de reprendre dans nos programmes. Avec les transferts monétaires, avec les transferts sociaux. Et c'est ce que j'appelle, que j'ai appelé la protection sociale non contributive. C'est-à-dire que la maman qui ne va pas à la pesée quand elle est enceinte, qui ne vaccine pas son enfant, qui n'envoie pas l'enfant à l'école, etc., nous venons en rescousse, on dit, tu auras tous les mois telle somme, mais à condition que tu envoies l'enfant à l'école, que tu vaccines, que tu suives les consultations prénatales. Et nous avons vu comment ça a progressé, comment le taux de fréquentation scolaire a augmenté, etc. Donc nous sommes en train de rééquilibrer les choses alors que...
Alors j'ai envie de dire, on n'est pas loin de la fin de cette émission, et j'ai envie de dire, il n'y a pas eu que de mauvaises choses en 60 ans. Si on devait mettre quelque chose... Dis quelque chose de positif des 60 ans, ce serait quoi? Rapidement, parce qu'on va dire une seule phrase seulement de ce qui est de la culture, de Franklin Bukaka, d'Extra Musica, qui sont les meilleurs ambassadeurs finalement de ce pays.
Et moi, je dirais, c'est la scolarisation des filles. Ça a été vraiment pendant cette période, avant l'indépendance, après l'indépendance et jusqu'aujourd'hui, on a vraiment marqué l'effort dessus et c'est ce qui fera aussi avancer le pays.
Bien. Donc la scolarisation des filles, il y a quoi d'autre?
Moi, je dirais que c'est quand même l'effort qu'on a fait pour intégrer le pays en infrastructure, parce que hier, c'était illusoire de croire qu'on pouvait aller de Pointe-Noire à Brazzaville en véhicule. Et aussi, le fait qu'à une époque, nous avons atteint le taux de scolarité et d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique.
Sony?
Bon, moi, je préfère parler des trains qui arrivent en retard. Hein.
Donc on en a parlé là.
Oui, parce que ça se passe comme ça. Quand les trains arrivent à l'heure, bon, on n'en parle pas, mais quand ça arrive en retard, tout le monde en parle. Oui, non. Vous savez, qu'est-ce qui nous identifie à l'étranger? Vous voyez comment nous sommes bien habillés, là?
La sape.
La sape. Hein? Voilà, donc...
C'est une vieille tradition congolaise.
C'est une tradition congolaise. Et nous avons quand même, dans ce pays, produit des écrivains de renom. On a un qui est un ambassadeur qui vit aux États-Unis aujourd'hui, les Dongala. Ça veut dire qu'il y a quand même du positif. Mais l'éducation aujourd'hui...
Il y a eu Henri Lopez. Hein, qui a...
Oui, bien sûr, Henri Lopez. Emmanuel Dongala, Alain Mabankou. Wilfine Soindé, etc. Mais aujourd'hui, quand on parle du taux d'alphabétisation, mais on est en train de former plutôt des illettrés et non pas des gens qui, demain, lorsque cette génération ne sera plus, seront en mesure de conduire les destinées de la nation.
Vous pensez que la relève n'est pas bien formée?
C'est mon point de vue.
C'est notre responsabilité. Pour l'instant, nous avons 60 ans. Ben, il faut essayer de s'engager pour que ceux qui entourent, j'allais dire, de 20 à 40 ans aujourd'hui, qu'il y ait quand même une espèce de témoin qui soit, comment dirais-je, transmis dans de meilleures conditions.
On a le sentiment qu'en Afrique francophone, on a du mal à passer vraiment le relais. Que chacun s'accroche au pouvoir, finalement. Ce mal n'a pas épargné au Congo.
Oui, mais c'est comme les tradis praticiens chez nous. Hein. Ils ne transmettent pas. Donc, ils meurent avec leur potion magique et tout. Et nous, nous mourons derrière eux parce qu'on n'a pas reçu ces connaissances. C'est un peu le problème que nous avons ici aussi.
Et puis, j'ai envie de dire, pour terminer, ici, on constate quand même encore une part de frilosité de la part des gens pour parler de politique. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que ça se détend?
Oh ben moi, j'en parle souvent, donc je n'ai pas de problème. Il y a Madame peut-être une ministre. Autocensure.
Moi, je fais de la formation des femmes en politique.
Sonny?
Écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est que pendant près de 10 ans, j'ai animé une émission, Sans détour, à DRTV, et les gens parlaient librement. Mais, j'ai dit seulement mais.
Mais?
J'ai dû arrêter.
Sous pression?
J'ai dit mais.
Bon, ben on va terminer sur ce mai-là, en espérant que ce mai, il n'y en aura pas dans 60 ans, quand nous viendrons ici encore célébrer les 120 ans d'anniversaire du Congo.
On sera au rendez-vous.
Ça sera tous plaisir. Au rendez-vous.
Sauf moi.
Bon, vous préférez partir?
Oui, c'est sûr que je vais partir.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce débat spécial 60 ans d'indépendance du Congo, en espérant que ceux qui dresseront le bilan des 60 prochaines années seront plus confortables et n'auront pas surtout à égrener les freins, les conflits et les incongruités qui ont empêché le développement harmonieux de ce beau pays situé au cœur du bassin du Congo, second poumon du monde. Nos remerciements à l'Institut français du Congo qui nous a si gentiment et efficacement accueillis aujourd'hui dans ses locaux, à Marie Odigier, la responsable de cet institut. Remerciements également à l'équipe technique, Grégory Sankara, Thomas Holland, à Delphine Michaud et Olivier Raoul qui sont restés à Paris. Prochaine étape, Libreville au Gabon dans 2 jours, le 17 août, en espérant évidemment rattraper un avion qui nous y amène puisque nous sommes obligés de traverser le fleuve Congo par canot dès la fin de cette émission pour rattraper le vol qui va nous ramener de Kinshasa à Paris via Bruxelles. Une fois à Paris, sans quitter l'aéroport, nous prendrons un autre vol pour Abidjan en Côte d'Ivoire, avec continuation le lendemain par un vol à Sky qui nous amènera enfin à Libreville via Lomé au Togo. 48 heures donc pour rejoindre une capitale qui est à seulement 40 minutes de vol d'ici. C'est vrai que la pandémie de Covid-19 y est pour beaucoup, mais pas seulement. Cette incongruité, cette faiblesse des liaisons intérieures, ce manque d'infrastructures routières et de moyens de transport aérien fiables devraient interpeller les Africains. On ne peut pas rêver des États-Unis d'Afrique, multiplier les slogans sur l'urgence de l'unité africaine, alors que dans le même temps, pour aller chez le plus proche voisin, on est obligé de passer par l'ancienne métropole. Ceci est un vrai frein à l'intégration continentale dont rêve toute une jeunesse. Mais aussi un sujet important auquel nous consacrerons, c'est promis, au moins une émission du débat africain et un documentaire. À quand les voies terrestres, aériennes et maritimes africaines, autonomes et régulières? Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.